petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Un témoignage historique surprenant. Maître Charrière Bournazel, ancien président du Conseil national des barreaux de France, raconte dans un discours du 28 octobre 2013 ce qu'un témoin a constaté des visus lors de la libération d'un camp de concentration par l'armée alliée en 1945. Ce bataillon, devant poursuivre son combat et donc repartir, a réparti, avant de s'en aller, les rôles de quelques détenus moins affaiblis que d'autres. Et ainsi, certains furent dotés d'armes pour monter la garde des nazis faits prisonniers. Surprise, ces nouveaux geôliers d'infortune, loin d'exercer une vengeance immédiate contre leurs tortionnaires, désormais, ils ont normalement traité et nourri leurs prisonniers. Leur but, faire que ces criminels puissent passer en jugement plus tôt qu'être lapidés. Bel exemple de respect d'une dignité sacrée des personnes malgré leur indignité criminelle patente. Mais bel exemple aussi de la différence entre vengeance et justice. Qu'attendent les victimes d'un procès? Au pire, faire subir à l'agresseur le châtiment qu'il mérite. C'est une vengeance publique, mais une vengeance en quelque sorte par procuration d'une cour de justice, mais une vengeance quand même. De toute façon, la violence appelle la violence. Au mieux, les victimes attendent du procès de pouvoir faire leur deuil des proches assassinés, ou faire leur deuil, plus simplement, des dommages qu'elles ont eux-mêmes subis. Dans ce cas, faire son deuil a encore un relent de vengeance. La victime ne sera apaisée que si le ou les coupables sont trouvés et punis. L'anthropologue René Girard, dont on fête cette année le centenaire de la naissance, a raison d'écrire dans son célèbre livre « La violence et le sacré » en 1972 que le principe de vengeance ne diffère pas, et c'est là la grande surprise, le principe de vengeance ne diffère pas du principe de justice. Dans les deux cas, en effet, se manifeste un besoin de réciprocité de la violence, un mimétisme de la violence toujours recommencée. Vengeance et justice s'inscrivent dans des processus de rétribution. La rétribution est l'élément clé du commerce, mais aussi de la vengeance et de la justice. Dans le commerce, on échange un bien pour un autre bien censé être d'intérêt équivalent. Pour la vengeance, un mal, et là pour la justice c'est d'ailleurs pareil, on échange un mal pour un mal censé être équivalent. Au cours de l'histoire, les échanges se sont modernisés. Le commerce échange un bien contre un équivalent universel de tous les biens, la monnaie. De même, la justice échange le mal commis par la part d'inculpé, par un équivalent universel du mal, c'est la prison. Et par exemple, telle agression vaut 6 mois de prison, telle infraction vaut 3 mois de prison, etc. Alors, malgré cette culture de la réciprocité et de la rétribution, du bien comme du mal, tout n'est pas si simple, car reste à savoir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Je crois en l'universalité des droits de l'homme, mais je crois aussi en l'importance de maintenir une diversité culturelle. Quant à la vengeance, par exemple, l'amplitude des différences est grande. La République apprend que la vengeance est un mal, mais toutes les familles n'en sont pas convaincues, même aujourd'hui. Et la vendetta pourrait bien être encore considérée comme une valeur. Dans le Cid de Corneille, au XVIIe siècle, eh bien, on considère la vengeance comme un devoir moral supérieur. Oui, comme un devoir moral supérieur. La justice ne renverra la vengeance dans les ténèbres du mal que lorsque s'affirmera l'état de droit. Dans tous les cas, commerce, tribunal et même duel, tout n'est que affaire d'échange. Néanmoins, le même René Girard dit que la justice apporte un immense bienfait. Le verdict du tribunal impose un stop à la spirale de la violence. Du moins, le plus souvent dans les états de droit par lequel on ne se fait plus justice soi-même. La vengeance, elle, s'engage toujours dans des réciprocités infinies et mortifères. La justice impose elle-même, par la force, s'il le faut, l'arrêt du cycle de vengeance. Mais ce n'est pas le seul avantage de la justice que d'arrêter la spirale de la vengeance. La justice introduit un troisième homme, le juge. L'évaluation du mal et sa rétribution punitive ne sont plus du seul fait des protagonistes. D'une façon ou d'une autre, le troisième homme, c'est l'État. L'État qui, par sa police, sa justice, a le monopole de la violence. Il faut aussi, ne l'oublions pas, insister sur le droit de la défense qu'apporte la justice. Pas simplement le droit de la défense, mais l'ensemble du code de procédure, du procédure pénale, qui sont des garanties de la dignité sacrée de la personne humaine. Ce droit de la défense canalise les échanges du mal en tenant compte des circonstances. L'usage des équivalents universels monnaie pour les échanges de biens, prison pour les échanges du mal, a peu supprimé le troc pour le commerce et la loi du talion pour la justice, sauf dans le cas de persistance de la peine de mort. Mais quand j'étais collaborateur du cabinet du secrétaire d'État à l'environnement, en l'occurrence François Delmas, j'avais rencontré un patron plus ou moins récalcitrant sur la nécessité de la dépollution. La pollution pose un problème éthique, lui avais-je dit un tantinet sentencieux, et vous ne me parlez que de logique mercantile. Ce patron, peut-être un peu vénal, n'était pas sot. Il me rétorqua la morale, la justice, et même la spiritualité, se vendent et s'achètent. Ce n'est pas l'échange commercial. L'échange commercial n'est pas seulement le modèle de l'entreprise, dit-il. Je dis que c'est aussi le modèle de la justice qui, comme la vengeance, échange un mal commis contre un mal punitif. Comme on dit, afin que le coupable paie sa dette, et les mots ont un sens. Même le Christ, conclut-il, s'offre en sacrifice pour racheter. Il insiste sur le mot rachat, pour racheter les péchés des hommes. Alors, arrêtons d'opposer justice et commerce. Eh bien, j'avoue avoir été interloqué, j'aurais dû répliquer que, au-delà de l'échange d'un bien pour un bien ou d'un mal pour un mal, il y avait l'échange christique d'un mal, la crucifixion, par un bien, le pardon, le don de soi, l'amour. C'est en ce sens que l'échange évangélique est un rachat spirituel.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.